Il y a un tout petit, comment dirais-je, un petit accord entre Normands qui veut que Antoine Ruffnac soit des nôtres aujourd'hui, parce qu'évidemment le président de Sol et Civilisation est lui-même un élu de Normandie. Alors, Monsieur le Ministre, au-delà des responsabilités ministérielles que vous avez exercées, vous êtes naturellement un élu normand. Vous avez été longtemps, vous êtes au Conseil général de, je ne sais pas si vous êtes toujours au Conseil général de la Seine-Maritime, mais enfin, vous avez eu le mandat. Vous avez surtout été maire du Havre et vous avez apporté à cette ville un renouveau assez exemplaire. Et vraiment, j'ai envie peut-être de commencer le débat de l'après-midi par vous. Quand nous nous sommes rencontrés avant cette rencontre, on a évoqué un peu tout ce que vous avez fait dans votre pays. Ce pays est le vôtre, vous êtes un de ces Havrais dont la famille a une vocation maritime. Vous êtes de ces Français qui ont le sens du grand large. Et c'est une réflexion intéressante à avoir aujourd'hui. Il y a à peu près 500 ans où l'on s'est rendu compte, 500, 600 ans, que la Terre n'était pas tout à fait plate et que l'on pouvait naviguer un jour vers des horizons qui relativisaient tout l'effort de cabotage qu'on avait fait jusque-là. L'historien Fernand Braudel avait choisi l'hypothèse que si la France avait fixé sa capitale à Nantes ou au Havre, bien sûr, le destin du pays aurait sans doute été changé. Parce que c'est vrai quand même que sans remonter à la préhistoire, dans l'horizon visible des périodes historiques, pendant des milliers d'années, on s'était peu occupé d'aller très loin. On ne pouvait pas y aller très loin sur les mers. Et ce pays a été façonné par des paysans attachés au sol. Est-ce que vous regrettez que la destinée de la France ait été aussi conditionnée par la civilisation du sol? Prenez l'autre micro si vous voulez. Il portera davantage vos propos.
Et si je commençais mon propos en disant devant Sol et Civilisation que je regrette que la France soit essentiellement, enfin dans son histoire, un pays rural et paysan, je pense que ce serait un peu une provocation.
Sans aucun doute.
Je serais immédiatement sifflé.
Ne vous y risquez pas.
Sifflé par la salle. Mais c'est vrai que les théories de Braudel sont intéressantes. Elles ont été reprises par Antoine Grimbach, dans le cadre de la consultation qu'avait lancée le président de la République sur l'idée du Grand Paris, et avec deux idées fortes, me semble-t-il. La première, c'est que pour que le Grand Paris soit une ville-monde, soit une métropole reconnue, plus qu'elle ne l'est encore aujourd'hui, il faut que, comme d'autres métropoles mondiales, New York, Londres, Shanghai ou Tokyo, elle se tourne résolument vers la mer. L'ouverture du Grand Paris vers sa façade maritime est un impératif, notamment dans le cadre de la mondialisation de l'économie qui fait que les échanges internationaux se développent formidablement, et ces échanges internationaux, comme vous le savez, se font à 85% par la voie maritime, et notamment par les containers sur lesquels le port du Havre a pris une avance importante au plan national. Nous assurons presque les deux tiers du trafic conteneur de la France, mais nous sommes assez en retard par rapport à nos grands concurrents d'Anvers et de Rotterdam, qui assurent une part importante du trafic qui va vers notre pays. Donc il y a là un défi économique important. L'évidence maritime, me semble-t-il, doit être mieux affirmée aujourd'hui. Lorsque nos concitoyens, lorsque les responsables politiques pensent à la mer, ils pensent souvent aux marins pêcheurs, qui sont une catégorie sociale intéressante, quelquefois un peu tumultueuse, rebelle, comme le sont les agriculteurs. Il y a donc une parenté entre les uns et les autres. Mais bon, alors là, c'est quand même sur le plan économique important, mais pas majeur. Ou bien on pense aux touristes, qui sont 14 ou 15 millions qui envahissent les plages, mais on ne pense pas assez aux ports. Et les ports, je peux en témoigner comme maire du Havre pendant une quinzaine d'années, les ports ont mauvaise réputation dans notre pays. Comme maire du Havre, quand je parlais du port du Havre, et encore maintenant, on me dit « Ah, le port du Havre, la CGT, les dockers, les grèves. Ça ne va pas être facile d'être maire du Havre. Eh bien, en réalité, oui, nous avons des dockers, bien sûr, nous avons une CGT, mais ils ne sont pas plus encombrants que ne sont leurs homologues belges et anversois ou hollandais. Et puis, de toute façon, encore une fois, c'est tout à fait indispensable de faire en sorte qu'on se tourne vers nos ports, notamment dans le domaine agricole. J'ai été chargé par le Premier ministre d'une mission sur le développement de la vallée de la Seine, dans le cadre précisément du Grand Paris. Le deuxième volet de la mission Grand Paris, comment est-ce que Paris doit s'ouvrir vers la mer, et en faisant des analyses de filières, nous avons été très attentifs à l'agroalimentaire, et nous avons constaté que la Basse-Normandie est assez bien positionnée dans ce domaine, mais la Haute-Normandie est très en retard par rapport à ses richesses. Le port de Rouen est vous savez, le premier port céréalier européen, mais dans l'économie du port de Rouen, il y a un côté un peu économie coloniale. C'est-à-dire que les céréales transitent par le port de Rouen et partent sans avoir été préalablement transformées. Sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la croissance, c'est très regrettable. L'exemple le plus frappant, c'est le lin. La Seine-Maritime doit assurer aujourd'hui presque 50% de la production mondiale de lin. Et le lin de la Seine-Maritime est, je crois, le meilleur du monde. Je fais un peu cocorico, mais je crois que ça correspond à la réalité. Le lin qui est produit en Seine-Maritime part pour la Chine, pour être filé en Chine, et revient ensuite en Europe pour être transformé en vêtements de luxe par les Italiens et les Français. C'est quelque chose de tout de même tout à fait anormal. Et une réflexion sur une meilleure filière agroalimentaire nous paraît tout à fait important.
Alors ce matin, pour aborder un peu ce qu'était la vocation spécifique de Sol et Civilisation, sur ce quart de siècle que nous avons observé, où on a vu à l'exode rural succéder, je dirais, un renouveau de la ruralité, on a perçu pour autant que derrière ce renouveau, on l'évoque facilement ce renouveau sous forme de tension entre nouveaux occupants. Et je voulais aussi que vous donniez un peu votre sentiment là-dessus. Par exemple, maintenant que vous êtes en charge finalement de ramener Paris dans la position où Brodel aurait voulu qu'il soit d'origine, c'est-à-dire plus proche de notre littoral, vous avez aussi été confronté à toutes les questions qui portaient sur la... Vous êtes confronté à toutes les questions qui portent sur l'aménagement de la Seine. Et vous sentez là aussi des tensions s'exprimer entre les paysages, entre les objectifs d'aménagement, entre le maintien des activités agricoles. Quelle est pour vous la juste mesure, la bonne pondération pour la résolution de ces conflits ?
Deux observations. D'abord, c'est vrai que dans ma mission, le Premier ministre me demande de réfléchir à un aménagement exemplaire de la vallée de la Seine, ce qui veut dire à la fois le souci de la réindustrialisation, le souci de mieux valoriser nos richesses agricoles, mais aussi le souci de préserver nos paysages, et notamment de préserver cette vallée de la Seine, qui est un paysage en soi tout à fait exceptionnel et qui n'a pas été exploité comme l'est par exemple la vallée du Rhin. Et là, c'est vrai qu'il y a un conflit fort entre ceux qui souhaitent que l'on protège les boucles de la Seine, qu'on les classe, et les agriculteurs, à la tête de ces agriculteurs, une personnalité forte de l'agriculture normande, qui dit, mais attendez, la protection intégrale des boucles de la Seine, c'est empêcher tout développement rural. Là, j'espère qu'on arrivera à un compromis, par un dialogue et en essayant de se comprendre mutuellement et en essayant de comprendre que cette vallée de la Seine doit à la fois valoriser sa production agricole, mais en même temps préserver cette richesse exceptionnel et qui n'a pas été exploité comme elle aurait dû l'être sur le plan touristique et sur le plan culturel. Deuxième observation, comme maire du Havre, puisque j'ai été élu en 1995 et j'ai laissé mon mandat il y a quelques mois maintenant à un jeune successeur, de façon à faire en sorte que la ligne qui a été conduite depuis 15 ans puisse être poursuivie dans les prochaines années, J'observe une évolution très forte. Quand je suis arrivé en 1995 comme maire du Havre, d'abord je succédais à une municipalité communiste qui avait été là depuis 30 ans, et c'est vrai que les ruraux, les paysans alentours nous regardaient comme le diable. D'abord on était la grande ville industrielle, ensuite, encore une fois, le clivage politique était très fort, et il a fallu pas mal d'années pour apporter la démonstration à les voisins que, bon, qu'on n'était pas le diable et qu'on avait intérêt à travailler ensemble. Et j'observe aujourd'hui que ce travail long, compliqué, avec des allées et des retours, de dialogue et de compréhension réciproque, fait son chemin. J'ai présidé l'élaboration du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Nous avons mis en place une charte paysagère avec une participation très active des ruraux. Il y a eu un vrai dialogue qui s'est fait. Et puis je constate aussi sur le territoire de la ville du Havre, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, un souci de plus en plus fort de mes concitoyens citadins pour, par exemple, multiplier les jardins familiaux. Et à 20 ans, on appelait ça des jardins ouvriers et on gardait ça avec un peu de commisération. Aujourd'hui, il y a une liste d'attente considérable sur la ville du Havre pour développer ces jardins familiaux. On a aussi le souci très fort en ce moment, de, pas seulement au Havre, c'est vrai sans doute dans toutes les grandes villes, de développer les cultures maraîchères. Il y a 30 ans, quand je faisais des campagnes électorales, j'allais chez les maraîchers, j'allais dans les marchés de bestiaux parce qu'il y avait une zone rurale qui était importante. Et puis il y a 10 ou 15 ans, ça n'existait plus. Et maintenant, ça revient. Et il y a un souci très important, à la fois du point de vue de la qualité de vie, du point de vue aussi des revenus, parce que pour les citadins, pouvoir bénéficier des produits d'un jardin familial, ça n'est pas négligeable dans la conjoncture actuelle. Et puis ce goût, ce retour vers la terre. Et puis alors, le troisième phénomène, évidemment, c'est le comportement quelquefois un peu difficile des rurbains qui ont quitté la ville, qui se sont installés à la campagne et qui veulent à la campagne avoir la tranquillité de la vie campagnarde, mais ne supportent ni le chant du coq le matin, ni l'odeur de purin le soir, et qui exigent des services, des transports en commun, tous les services de la ville. Et là, on sent des tensions importantes et des évolutions aussi très importantes sur la représentation de ce territoire rural. Un exemple, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, évidemment, ce sont été les élections sénatoriales, où on a vu que beaucoup de maires que l'on considérait autrefois comme des agriculteurs étaient aujourd'hui des anciens fonctionnaires ou des anciens cadres de la ville qui se sont installés à la campagne et qui ont pris le pouvoir, avec évidemment des mentalités qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc on sent bien dans le périurbain des tensions assez fortes. On est dans une période au fond de transformation. Alors des tensions assez fortes avec le monde rural et le monde paysan, et en même temps des revendications très fortes de la part de ces citadins qui veulent avoir les mêmes services à la campagne qu'à la ville, avec tout ce que ça représente en coût pour la collectivité, et en même temps une compréhension. Et puis, dernier point, le souci alors des maires de grandes villes, c'était le mien bien sûr quand j'étais maire du Havre, de reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire d'éviter cette pollution foncière par l'envahissement des territoires ruraux par les citadins, et le souci, autant que faire se peut, de densifier les villes de façon à faire en sorte que le coût collectif des services soit mieux assuré.
Vous avez été en responsabilité gouvernementale, vous connaissez un peu tout le fonctionnement, bien le fonctionnement institutionnel de ce pays. Il y a une chose qui était frappante dans le débat de ce matin. Naturellement, sont apparues quelques-unes des tensions entre des milieux socio-économiques que vous venez d'évoquer. On va y revenir encore dans le cadre de cette affaire. Mais il y a quand même quelque chose de neuf qui est associé un peu à cette rééclosion de la ruralité. On a des notions faire territoire. on a l'impression qu'il s'agit de reconstituer avec des acteurs de logique ou d'appartenance différentes des communautés de vie qui n'étaient pas naturelles. Et on l'a vu, par exemple, on a évoqué ce matin l'expérience du parc naturel régional de la Grande Chartreuse, où il faut trouver des synergies d'acteurs. Et c'est un peu une des vocations que seule la civilisation se donne dans le capital de valeurs que l'association veut promouvoir. Dans un grand projet national comme la vallée de la Seine, qui est confrontée à des objectifs majeurs en termes économiques, en termes de gouvernance du pays, et en termes, est-ce que vous imaginez que sur des projets aussi vastes, on peut aussi en arriver à ces démarches plurielles, contractuelles, ouvertes, où le relationnel permet vraiment, plus que l'imposition de certains choix, de certaines règles ou de certaines positions de principe, de recréer vraiment l'unanimité et la dynamique sur le projet?
Je crois qu'on peut y parvenir, mais à condition de le faire avec prudence et avec beaucoup de pédagogie. Lorsque j'étais maire du Havre, j'avais lancé un peu par provocation l'idée de construire une communauté urbaine sur les deux rives de l'estuaire de la Seine, qui irait, pour ceux qui sont un peu familiers avec la géographie, de Cabourg à Fécamp et avec l'autre bout du triangle qui irait jusqu'à Lillebonne, une communauté urbaine de 5 à 600 000 habitants.
C'est plus dur que de réconcilier la Savoie et le Dauphiné, hein. Je pense.
Je l'avais fait par provocation, pour faire un peu bouger les lignes. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'entre les deux rives de l'estuaire de la Seine, j'avais créé il y a une quinzaine d'années un comité des élus de l'estuaire, qui regroupe des gens très, très divers, des élus très divers, les cinq pays, en fait, de l'estuaire de la Seine. Au début, nous regardions un peu en chien de faïence, notamment d'ailleurs les ruraux par rapport à la grande ville, la crainte de la grande ville. Et puis, petit à petit, je crois que la confiance est instituée et se développe. Dans le cadre de l'intercommunalité dans laquelle le gouvernement s'est engagé, nous avons été prudents, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu, et mon successeur a suivi la même ligne, nous n'avons pas voulu souhaiter réaliser rapidement une grande agglomération comme on aurait pu l'imaginer. Et je pense que dans quelques mois maintenant, l'agglomération du Havre va s'associer avec deux communautés de communes rurales, celle de Criquetot-Lesneval et celle de Saint-Romain-de-Colbosc. Mais ça n'a pas été facile. Le conseiller général de Criquetot, qui est un ami personnel et un ami politique, Charles Revet, qui est un vrai rural, il y a encore quelques mois, considérait qu'une alliance avec le Havre, c'était inimaginable. Il voulait faire des alliances entre ruraux. Et quand je disais que nous avions intérêt à nous allier urbains et ruraux parce que nous étions complémentaires, et que par ailleurs, la grande ville a évidemment des moyens financiers dont les ruraux ne disposent pas, j'avais un peu de mal à le convaincre. Ceci dit, nous n'avons pas voulu aller trop loin, comme je l'avais imaginé à un certain moment, parce que j'ai fait la tournée des communes, enfin des communautés de communes, et je me suis aperçu que, très rapidement, que le point de vue de mes collègues était assez différent du nôtre. Notamment dans les communautés de communes rurales, ils avaient mis en place des systèmes de coopération sur les chemins ruraux, sur la vie culturelle, sur les cantines scolaires. Et j'aurais dit, moi, je ne peux pas faire ça au niveau d'une telle agglomération. Ça a peut-être un sens dans un petit espace rural où il y a pas de complémentarité, mais on a les mêmes préoccupations. Moi, prendre la culture au niveau de l'agglomération, je n'ai pas envie de le faire, parce que les problèmes sont très, très différents. Donc on s'aperçoit que à la fois il faut aller de l'avant dans ce domaine, mais il faut y aller avec une sage lenteur et arriver surtout à convaincre progressivement que on est dans des opérations gagnant-gagnant. Mais au départ, on est plutôt dans une réaction d'hostilité et d'ignorance réciproque.
La mission que vous accomplissez, quelle est l'échéance qu'on lui pose a priori?
L'échéance est assez brève, puisque j'ai reçu une lettre de mission du Premier ministre à la suite des orientations prises par le président de la République. Cette lettre de mission, je crois, date de fin avril ou même peut-être début mai, et elle est très dense dans ses perspectives, puisqu'il s'agit à la fois développement économique dans le cadre d'une économie durable, de progression de ce territoire à un sentiment d'appartenance, donc tout ce qui touche au culturel et au tourisme, et enfin des propositions de gouvernance. Et tout ça avec une équipe de 6 personnes, un premier rapport d'étape que je remets demain au Premier ministre, un deuxième rapport d'étape le 15 décembre et un rapport définitif le 1er mars. Quelquefois, je me suis demandé si en écrivant cette lettre de mission ou en faisant écrire cette lettre de mission, le Premier ministre n'avait pas pour ambition de m'asphyxier, à la fois par la densité du programme et la contrainte du calendrier. Mais voilà, donc on va faire des propositions et je crois des propositions qui décoiffent un petit peu. Et ce que je souhaite surtout essayer de faire partager comme message au niveau gouvernemental, c'est 3 choses. La première, c'est que vraiment le Grand Paris a intérêt à s'engager dans une seconde étape, à s'ouvrir vers la façade atlantique et tout naturellement par la vallée de la Seine. Le deuxième message, c'est l'évidence maritime, que enfin notre pays comprenne à tous les niveaux que les enjeux portuaires sont des enjeux majeurs en termes de croissance économique, en termes d'emplois créés et en termes même, je dirais, d'indépendance nationale. Que notre territoire national soit assuré dans sa majorité par, certes, des pays amis et européens, mais tout de même, une dépendance qui n'est pas la même ne me paraît pas suffisant. Et puis, le troisième message que j'essaie de faire passer, et ça, il est plutôt conjoncturel, c'est de dire, dans cette perspective de développement de la vallée de la Seine, et dans le cadre de la crise économique que rencontre aujourd'hui notre pays, comme toutes les économies occidentales, il y a un moment où il faudra quand même repartir de l'avant, avec des investissements publics, notamment cette ligne à grande vitesse permettant de relier le Havre à Paris et le relier à l'ensemble du réseau de transport rapide européen. Il faudra donc avoir des investissements publics et puis il faudra inciter les investisseurs privés à s'engager fortement dans une politique de réindustrialisation indispensable pour notre pays. Et il me semble que la vallée de la Seine, de ce point de vue-là, pourrait être un laboratoire exemplaire à la fois sur le plan du développement durable, sur le plan de la coopération, de la cohésion entre la qualité des paysages, la qualité de l'environnement, la protection des espaces sensibles, les évidences agricoles, puisque nous sommes une terre très agricole, avec une richesse agricole considérable, et puis une industrie qui est très puissante. Et l'idée que cette vallée de la Seine puisse être un vecteur de redynamisation de l'économie nationale, ça n'est pas seulement un sujet qui intéresse les Normands. Je suis persuadé pour ma part que c'est une vraie ambition nationale, c'est une vraie cause nationale dans laquelle je souhaiterais que le gouvernement s'engage pleinement.
On y reviendra sans doute dans l'échange avec la salle, en particulier d'ailleurs un peu sur tous les problèmes de gouvernance que vous avez évoqués et que ce projet soulève. Je sais que dans le débat de ce matin, un certain nombre d'amis souhaiteraient qu'on approfondisse cet aspect que nous avons peut-être abordé trop rapidement.